entre tes doigts l'argile prend forme. L'homme de demain sera hors norme. Un peu de glaise avant la fournaise qui me durcira. Je n'étais qu'une ébauche au pied de la falaise, un extrait de roche sous l'éboulis. Dans ma cité lacustre aboyée de fadesse. Malax, le cœur de l'automate. Malax, malax, les omoplates. Malax, le thorax. Issu de toi, issu de moi, on s'est hissé sur un piédestal. Et du haut de nous deux, on a vu. Et du haut de nous deux, on a vu. Malax, Malax. Le calcul mantelé dans ta bouche a piqué. J'ai pas compté, j'ai escompté. Mais une erreur de taille s'est glissée. J'y suis resté. Malax, le cœur de l'automate. Malax, malax, les omoplates. Malax, le thorax. Ici de toi, ici de moi, on s'est hissé sur un piédestal. Et du haut de nous deux, on a vu. Et du haut de nous deux, on a vu. De moi, on s'est hissé sur un piédestal. Et du haut de nous deux, on a vu. Et du haut de nous deux.
Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio Libertaire pour cette à peu près 20e émission Livre en lutte. Ça devait arriver. Aujourd'hui, le thème, c'est l'histoire du roman noir américain. Le roman noir et pas que. Je vais essayer aussi de vous donner l'envie d'aller au festival du roman noir et social de Vitry-sur-Seine, 4e édition cette année, et qui a lieu le premier week-end de décembre dans les locaux de réception de la mairie de Vitry. Alors le plan, tout d'abord une rapide définition, puis on parlera des hobos, des pulps, ces magazines très bon marché, du contexte des années 20 et 30 d'une société particulièrement hypocrite et corrompue. On évoquera quelques auteurs des débuts du genre, puis le problème des traductions, le rôle de la CIA dans le développement de la fiction aux États-Unis, quelques auteurs plus contemporains et enfin les femmes dans une partie qui va représenter au moins le quart de l'émission. Donc vous l'avez compris, on n'aura pas le temps d'évoquer énormément d'auteurs. Je ferai des petits focus, peut-être même quelques petites lectures. Mais on va pouvoir étendre le sujet. Alors quelques livres de référence. Eh bien on a dans ce pays un certain nombre de fondus du polar américain. La grande référence, c'était Claude Mesplède, qui avait écrit quelques romans, une grosse demi-douzaine d'études, avec par exemple son SN Voyage au bout de la Noire, qui est constitué de fiches sur 732 auteurs. Alors la blagounette, c'est qu'une trentaine d'auteurs de romans noirs se sont amusés à donner le nom de Claude Mesplède à un de leurs personnages, y compris des auteurs nord-américains, comme James Ellroy ou Dennis Lehane. Alors il y a aussi des spécialistes comme Benoît Tadier, un universitaire, avec par exemple son Le polar américain, la modernité et le mal, 1920-1960, c'est excellent. On a maître Roger Martin, que je salue, qui avait lancé un fanzine, Hardball Dicks, et qui a fait des romans et un essai, on va le recroiser plus loin dans cette émission. On a sur les femmes un essai de la féministe Caroline Granier titré « À armes égales, les femmes armées dans les romans policiers contemporains ». On a la série noire par elle-même, ça s'appelle « C'est l'histoire de la série noire 1945-2015 » chez Gallimard évidemment. Et puis si on aime chiner, on peut trouver tout un tas de bouquins ou des vieilles revues. Il y a un vieux numéro de la revue « Les temps modernes », c'est le 595 qui date de 97 qui s'appelle « Pas d'orchidée pour les TM ». On a un vieux numéro de la revue Europe de mai 90 sur les écrivains des États-Unis, qui en parle pas mal. Vous avez une pléthore de sites internet sur les romans noirs. Donc je commence par une définition. Donc le roman noir comme on l'aime, c'est un polar dans un contexte historique, social, humain et indirectement politique, avec une description d'un ou plusieurs milieux sociaux différents. Avec de grandes différences avec les romans à énigmes et avec les thrillers. Le roman noir, c'est le où, quand et comment, et pas le pourquoi. Ajoutons que le roman noir se termine souvent comme il a commencé, dans le chaos, avec une société toujours hypocrite, corrompue et violente. Le détective ou le héros, s'il a survécu, il est toujours aussi seul et dans la dèche, avec le même regard pessimiste sur la société. Alors que le thriller, pour Roger Martin, c'est un genre de l'ordre, car à la fin, tout est résolu et les méchants sont tués ou punis. La société retrouve un cours normal et bien ordonné. Et aussi, la violence dans le roman noir, c'est le reflet de la violence de la société. Dans le thriller, c'est l'anomalie. Pour ce qui est du reflet d'une histoire sociale et véridique, je vais reprendre un exemple français. Ce livre de Deninx, alors c'était sur une remarque d'un de ses copains, qui lui avait dit qu'en classant toutes ses nouvelles par ordre chronologique, on obtiendrait une histoire de la France. Et il l'a fait en 2019, ça s'appelle « Le roman noir de l'histoire » aux éditions Verdier. Ça fait 832 pages. Il y a 77 nouvelles classées dans l'ordre chronologique de l'action de 1855 à 2030, avec beaucoup de personnages qui ont existé et dont Deninx conserve souvent les prénoms. Aux États-Unis, pas vraiment de personnages historiques, plutôt un contexte réel, et des personnages qui, comme le dit Benoît Tadier, sont des rescapés de l'histoire. Par exemple, on a des anciens de 14-18 incapables de se réinsérer dans la société, marqués par un syndrome post-traumatique, donc alcoolo ou drogué ou tueur psychopathe. L'archétype du roman qui brosse un portrait de différents milieux, ce serait pour moi The Long Goodbye de Chandler, avec des descriptions et des milieux de la police et de la presse, des bourgeois, de la justice, avec par exemple déjà la façon dont les districts Attorney pouvaient faire une carrière politique s'ils réussissaient une affaire très médiatisée. Alors, moi je vais partir des hobos, donc nos travailleurs itinérants sans domicile fixe qui utilisaient les wagons de marchandises pour se déplacer, ils sont quand même 500 000 en 1908, une culture très codifiée. Et le roman Hard Boiled, c'est pas simplement un roman avec un type de héros hard boiled dur à cuire, c'est aussi un style littéraire très concis, sans digression psychologique, réduit au fait, très dépouillé, un style à l'os, qui n'est pas que le fait des auteurs, hein, on verra aussi, c'est dû aux éditeurs nord-américains et aux traductions françaises. Et puis, il y a aussi beaucoup d'auteurs de romans noirs qui avaient été hobos. Alors ceux-là ont fait beaucoup de petits boulots, ils connaissaient les milieux populaires, et dès que j'en aurai l'occasion, je ferai la liste des petits boulots qu'ont pratiqué ces auteurs. Alors parmi les auteurs et ex-hobos, auteurs de polar, on a par exemple James Cain, Jim Thompson. Alors Jim Thompson, il fait un bouquin sur les hobos, ça s'appelle « À deux pas du ciel », ça sort en 67, mais ça part bien de son expérience en 1920 ou 1921. Dans un des derniers grands chantiers de hobo, c'était la construction d'un pipeline dans un désert du Texas, avec un campement de 500 ou 600 hobos. Bon, pour le coup, c'est pas son meilleur bouquin, et de loin. Alors on a Dashiell Hammett aussi, qui a été hobo, Nelson Algren, tiens, communiste, Edward Anderson, Edward Dahlberg, alors lui, c'est plutôt sa mère qui était hobo, mais lui était enfant, dans les jambes de sa mère, il a vu un peu ce qui se passait aussi. Alors, pour mémoire, même s'il n'a pas écrit de polar, mais pour nos spécialistes, il n'en était pas loin, Jack London a aussi été arrêté pour vagabondage et emprisonné un mois, c'était en 1894. Il a brûlé le dur, il a voyagé en train de marchandises, et il a pratiqué aussi toutes sortes de boulots. Et donc, ses souvenirs, les vagabonds du rail, vont sortir d'abord dans un magazine, pas un pulp, mais dans le Cosmopolitan Magazine. Donc ça sort en la meilleure édition, c'est chez Vasseur, parce que c'est en bilingue. Après, vous pouvez aussi avoir accès à la lecture en audio, gratuitement et même sans inscription. Alors, je reviens à un acteur hobo, Jim Tully, c'est pas un auteur de polar, mais il a eu du succès parce qu'il a été l'un des premiers à pratiquer ce style hyper concis. Et puis, il n'a écrit que des livres sur les milieux qu'il connaît, et là encore, c'est un peu l'esprit roman noir. Donc il fait un livre sur les hobos, ça c'est Vagabond de la vie en 24. Il en a écrit un sur Hollywood, un sur le cirque, sur les orphelinats, sur les prisons, sur la boxe. Alors la boxe, il avait commencé une carrière parce qu'il avait dit qu'il avait voulu mettre à profit ce qu'il avait appris sur la route. Le milieu des hobos pouvait être violent. Des livres sur l'usine, sur les Irlandais, et puis après c'est le déclin pour deux raisons. Bon, le premier, c'est la boulette, il fait un bouquin sur les prostituées et dans lequel il parle de sexe. Il faut pas parler de mœurs aux États-Unis. Mais la deuxième raison, c'est plus intéressant, c'est parce que en 35, il n'est plus le seul, loin de là, à pratiquer ce style très concis. Alors la première apparition d'un hobo dans un roman noir, eh ben c'est dans le James Cain. Le facteur somme toujours deux fois, ça sort en 34. Bon, c'est connu, il y a au moins 6 adaptations au cinéma. Et puis, je vais faire une petite lecture, c'est le tout début du bouquin, du premier chapitre. Vers midi, ils m'ont vidé du camion de foin. J'avais sauté dedans, juste à la frontière, la nuit précédente, et une seconde après m'être glissé sous la bâche, je m'étais endormi profondément. J'avais besoin de sommeil après ces 3 semaines à Tijuana. Et je ronflais encore lorsqu'ils ont retiré la toile pendant que le moteur refroidissait. Ils ont soudain aperçu un pied, et en tirant dessus, ils m'ont flanqué par terre. J'ai essayé de blaguer, mais ça n'a pas pris. Le coup était raté. Ils m'ont quand même donné une cigarette, et j'ai filé à la recherche de quelque chose à manger. Alors, page 1, il rencontre son patron. Page 3, il rencontre la femme du patron. Page 12, il couche avec. Page 21, première tentative d'assassinat. On est vraiment dans le style très rapide du roman noir. Alors maintenant, je vais parler des pulps. Alors les Pulps, c'était ces petits magazines à 15 cents ou 10 cents. Donc le terme pulp se rapporte à ce qu'il n'était pas imprimé sur du papier, mais sur de la pulpe de bois. En gros, de la sueur. Et les Pulps ont beaucoup compté dans le développement de la fiction dans certains genres populaires comme la science-fiction, le western et le roman noir. Donc on parle de Argosy, qui est considéré comme le tout premier pulp magazine, dont ça sort en 82, et le premier numéro entièrement consacré à de la fiction sort en 1896. Le plus important pour nous, évidemment, c'est Black Mask, qui est lancé en 1920, avec une apogée dans les années 30, puis un déclin, notamment avec l'arrivée du livre de poche, le paperback, à partir de 39, pour une disparition en 1951. Donc il y a des milliers et des milliers d'auteurs qui écrivent dans ces pulps. Les salaires sont très bas. Pour la première nouvelle de Chandler, dans Black Mask, les maîtres chanteurs ne tirent pas, il va toucher $180. Donc c'est des auteurs qui vont écrire beaucoup et vite. Et puis, les directeurs réduisaient beaucoup les textes qui leur arrivaient. Et c'est là qu'ils ont contribué à l'apparition de ce style hardboiled. Alors directement du pulp au roman, on a un livre présenté comme le chef-d'œuvre de Paul Kane qui s'appelle « À tombeau ouvert » qui sort en 1933 et qui a été constitué en rassemblant 5 nouvelles du Black Mask, sorties en 1932. Et bon, pour dire la vérité, moi j'ai pas vraiment aimé, mais c'est alors là, c'est vraiment l'archétype du bouquin qui va très très vite et qui se fixe sur l'action. Alors Dashiell Hammett avait publié aussi le début de Moisson Rouge dans Black Mask, et ce sera son premier roman en 1929. Chandler reprend deux nouvelles publiées en 1935 et 1936 chez Black Mask pour écrire Le Grand Sommeil qui sort en 1939. Alors, maintenant on va parler du contexte des années 20 et 30. Alors, deux choses. Premièrement, les violences antisyndicales. Donc on le sait peu, donc je vais citer deux exemples, vraiment que deux exemples parmi tant d'autres. Donc en 1914, il y a le massacre de Ludlow, dans le Colorado. C'est 1200 soldats de la garde nationale et des hommes d'une agence, c'est pas la Pinkerton, c'est une autre, constituée notamment de 117 gardes engagés par John Rockefeller. Donc, suite à la grève, les mineurs logés par la compagnie avaient dû quitter leur logement et avaient créé un village de tentes pour s'abriter avec leur famille. Donc le camp est attaqué par deux compagnies de la garde nationale, avec des mitrailleuses, dont une montée sur une voiture. Il y a une jolie photo sur le net, c'est une voiture, c'est un torpedo, quoi. Il n'y a pas de toit. Donc ça ne s'arrête pas là, donc il y a des combats toute la journée, et à la tombée de la nuit, les gardes et miliciens ont fait le tour du village de tentes, ils ont aspergé de kérosène ces tentes, et ils y ont mis le feu. Donc bilan, 13 mineurs tués, et en plus, on a retrouvé les cadavres calcinés de 11 enfants et de 2 femmes. Donc évidemment, à l'issue du procès, il n'y a eu que des responsables syndicaux qui ont été condamnés. Donc deuxième exemple, en 1921, c'est la bataille de Blair Mountain. Ça, c'est un épisode que Roger Martin aime bien évoquer lors de ses conférences. Ça se passe d'août à septembre 1921, en Virginie occidentale. Et c'est officiellement le plus grand soulèvement de travailleurs dans l'histoire des États-Unis. Environ 10 000 mineurs de charbon armés qui s'opposent à 3 000 hommes de loi. Donc c'est la fois où des avions privés avaient été loués afin de larguer sur les mineurs des bombes artisanales ou des bombes provenant des stocks restants de la Première Guerre mondiale. Donc on le sait parce qu'il y en a une qui n'avait pas explosé et qui sera produite lors du procès. Donc la bataille a pris fin après le tir d'environ 1 million de cartouches. Donc on a au bilan 30 morts du côté des milices, et du côté des mineurs, bon, on ne saura jamais, mais c'est à peu près entre 50 et 100 morts. Donc encore une fois, du point de vue des suites judiciaires, eh bien seuls des mineurs ont été inculpés, 985 d'entre eux quand même, et ça, voilà, c'était pour l'ambiance antisyndicale hyper violente. Il y a un deuxième fait super important, c'est la prohibition. Donc elle est introduite par le fameux 18e amendement qui est voté en 19, ça va durer jusqu'en 1933. Donc dans les faits, on a compté jusqu'à 30 000 ou 32 000 bars clandestins et speakeasies rien qu'à New York. Il y en avait aussi à 20 000 à Chicago. Donc le souci, c'est que ça a terriblement enrichi les mafias, qui ont pu corrompre après, à grande échelle, on va même dire systématiquement, et les policiers et les juges. On pouvait croiser dans un speakeasy, au coude à coude, un flic, un juge et un mafieux. Donc, ça, c'est le contexte donc d'une société terriblement violente, hypocrite, corrompue, et dans laquelle, eh bien, nos auteurs préférés et nos personnages ne croient absolument plus dans la loi. Alors, quelques auteurs... avant même de parler des auteurs de Polar, pour les spécialistes, et on a eu une petite conférence au Village du Livre à la Fête de l'Huma cette année, avec Roger Martin, Benoît Tadier et un auteur américain, Dennis Brough, qui n'est pas encore traduit en français, il y avait eu une littérature prolétarienne aux États-Unis, mais écrite plutôt par des intellos, qui pouvaient signer notamment dans le magazine Macy's, et qui donc n'ont guère été lus par les ouvriers, contrairement aux pulps. Et puis, il nous disait aussi que il a existé un journalisme d'investigation, on les appelait les Mursquakers, grosso modo les fouilles-boues, qui ont pu révéler des scandales. Alors, il y a un livre qui s'appelle La Jungle, en français, et en anglais, The Jungle, qui est un roman écrit par un journaliste et romancier américain, c'est Upton Sinclair, qui sort d'abord en feuilleton, donc, en 1905, dans le journal socialiste Appeal to Reason, puis en livre en 1906. Et James Kane, que je viens de lire, en tant que journaliste, va exposer dans un article en 1922 cette bataille de Blair Mountain, avant même que sorte son premier bouquin en 1934. Donc nos spécialistes disaient aussi qu'il y a des acteurs, des auteurs parfois proches du roman noir, et ils ont cité London, Steinbeck, Faulkner pour son Sanctuaire, ou encore Erskine Caldwell. Alors, quelques auteurs, donc Dashiell Hammett, alors là, il faut que je parle de Moisson Rouge, donc Dashiell Hammett, qui avait été commis dans un bureau de publicité, employé des chemins de fer, agent de change, chronométreur dans une conserverie et un atelier d'usinage, débardeur, et enfin agent chez les Pinkerton. Alors, il faut expliquer un peu ce qu'étaient que ces agences de détectives privés. Ils faisaient pas leur chiffre d'affaires en suivant des femmes infidèles, mais bien en étant embauchés pour briser des grèves. Il y a eu jusqu'à 200 officines qui servaient uniquement à cela, en fait. Donc, Chandler, c'est lui qui a inventé Philip Marlowe. Donc c'est clair, c'est un détective dégoûté par l'hypocrisie du milieu ambiant et de la société américaine en général, avec toujours l'humour un peu grinçant et pince sans rire. Donc on peut citer son excellentissime The Long Goodbye, alors en français publié d'abord sous le titre Sur un air de Navarra, ou Navaja, je ne sais pas comment on dit, puis sous le titre donc The Long Goodbye dans une version intégrale, mais d'origine, c'est la même traduction qu'à l'origine, puis dans une nouvelle traduction qui sort, qui est révisée chez Folio Policier en 2014. Alors on a aussi Horace McCoy. Alors petit métier, il a été mécanicien, vendeur itinérant, chauffeur de taxi, journaliste sportif, ouvrier saisonnier, serveur, garde du corps. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a été un hobo? Ben, c'est pas officiel, mais il a cueilli des laitues en Californie, donc pour moi, il y a quand même pas mal de chance. Donc, il y a son fameux « un linceul n'a pas de poche ». Donc là, le milieu qui sera critiqué, c'est la presse. Et donc, ça, c'est une dénonciation de la fausse liberté de la presse et d'expression aux États-Unis. Donc, il y a quand même un truc un peu paradoxal, c'est que bon, les Américains avaient besoin de héros après les Kit Carson et David Crockett, etc. Donc ce limier justicier, en fait, il correspond pas du tout à la réalité. Hein, c'était ces agents des Pinkerton et autres, c'était des salauds. Donc il y a un petit côté un peu paradoxal, c'est pas grave. Donc moi je vais vous lire un petit morceau de Moisson Rouge. Un morceau, un extrait. Alors, c'est dès la page 19, en fait, il nous explique carrément ce qui s'est passé dans les usines avec les mafias. La grève avait duré 8 mois. Le sang avait coulé abondamment des deux côtés. Les Wobblies, donc les syndicalistes, n'avaient pu compter que sur eux-mêmes pour cela. Le vieux patron, lui, avait engagé des mercenaires, des briseurs de grève, des membres de la garde nationale et même des soldats de l'armée régulière pour s'en charger à sa place. Quand le dernier crâne avait été fendu, la dernière côte brisée, la section syndicale de cette ville n'était plus qu'un pétard sans poudre. Le problème était que le vieux patron n'avait pas étudié l'histoire de l'Italie. Il avait écrasé la grève, mais perdu sa mainmise sur la ville et l'État. Pour vaincre les mineurs, il avait dû lâcher la bride au gros bras qu'il avait engagé. Le calme revenu, il lui avait été impossible de s'en débarrasser. Il leur avait livré sa ville et n'était pas assez fort pour la reprendre. Sa ville lui avait plu et ils en avaient pris le contrôle. Il lui avait permis de gagner le conflit et garder la ville pour butin. Le vieux patron ne pouvait rompre ouvertement avec eux, il le tenait. Lui seul portait la responsabilité de toutes les exactions commises durant la grève. Donc là, on a compris aussi que ces auteurs ont une certaine sensibilité, et ça, on y reviendra tout à l'heure. Et là, on va se faire une petite pause musicale avec un Duke Ellington, et je vous dirai pourquoi après. Duke Ellington, pourquoi ? Eh bien, c'est la bande-son de l'époque. Et puis, dans le style de Duke Ellington, là on est dans sa période Jungle, c'est un titre de 1930, il y a beaucoup de morceaux avec une certaine tension, il y a d'autres morceaux avec beaucoup d'ironie, et là je crois qu'on retrouve carrément l'ambiance du roman noir. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que pour pas mal d'amateurs de Duke Ellington, c'est le début, ce sont ses débuts, c'est sa meilleure période. Il a commencé, je crois, en 27 ou en 28 au Cotton Club, tenu par des bandits. Et pour d'autres, c'est vrai que les chefs-d'œuvre ont été écrits aussi dès les premières années du style, du roman noir. Alors, on va aborder le problème des formats et des traductions. Donc, tous ces auteurs de romans noirs et ces premiers auteurs, on les découvre en France avec l'apparition de la série noire qui est fondée fin 45 par Marcel Duhamel chez Gallimard et qui a fait donc beaucoup pour le roman noir. Pour le meilleur et pour le pire, on va voir ça. Donc, au niveau des formats et de la réduction des textes, à l'époque, pour Marcel Duhamel, le polar est un roman de gare vendu bon marché. Et notamment, à partir de 1948, il sera distribué dans les relais Hachette des gares. Donc, ils doivent tenir dans les fameux tourniquets. Donc, il ne peut pas excéder 256 pages. Donc, en fait, ils vont élaguer les textes. Et il y a des textes qui seront amputés de 15, 25 ou 30% du texte original avec, paraît-il, parfois l'apparition de nouveaux paragraphes de liaison pour rendre le texte cohérent. Donc, la série noire. Aux presses de la cité, il y a Cible Mouvante de Ross MacDonald qui se voit amputé d'un tiers. C'est publié dans les années 50, donc c'est plus le même bouquin. Velon Goodbye de Chandler sort en 53, donc c'est la version sur un air de Navaja. Et puis, moi j'ai lu en fait un texte intégral qui était édité deux fois en 2000 et 2004, toujours en traduction d'origine, bon, qui est tout à fait lisible. Il y a quelques phrases un peu flottantes au départ, mais bon. Et puis ensuite, on aura enfin en 2013 une édition révisée chez Quarto. Donc, intéressant toujours de repérer les bonnes traductions. Alors, le Démon dans la peau de Jim Thompson, ça sort en 66, il manque un sixième. Et après, on a une nouvelle traduction chez Rivage Noir en 2012 avec un nouveau titre. C'est L'assassin qui est en moi. Donc, Rivage a fait un gros travail sur les retraductions. Il y a un autre de Jim Thompson qui a été retraduit, c'est L'échappé. Alors, pour ce qui est du format même du livre, donc en fait, il faut attendre 79 pour que Albin Michel sorte La Nuit du Renard de Mary Higgins Clark en grand format. Et il n'était pas sur deux. Et en fait, je crois que ça a été la plus grosse vente de Mary Higgins Clark. C'était un très gros succès. Fleuve Noir crée sa collection grand format qu'à la fin des années 90. Bon, et en même temps, nous-mêmes, on reste quand même attachés au petit prix des petits formats. Alors, plus rigolo, c'est la traduction. Donc, le paradoxe, c'est quand même que Marcel Duhamel ne traitait pas ni Chandler, ni Hammett, ni Himes comme des auteurs apparentés, on va dire. Il portait guère d'intérêt à la traduction. Et on a retrouvé des notes comptables de Marcel Duhamel, datant de la fin des années 40, qui évoquent 50 000 francs, soit l'équivalent de 1 500 euros de 2012 pour la traduction d'une série noire. Aujourd'hui, je crois que les traducteurs perçoivent environ 6 000 euros pour un roman complet. Donc, des exemples plutôt drôles. Donc en 1967, paraît dans la série noire un roman d'espionnage qui s'appelle Un petit coup de main. Donc page 123, il y a deux agents américains qui se demandent comment les soviétiques ont pu retourner un de leurs collègues. Dialogue. Il devait connaître son terrible secret, dit l'un. Et l'autre, de révéler, accablé, il était gay. Gay, G-A-I. Ça veut rien dire. Dans Chien ivre de James Comley, il y a un personnage qui se rend dans un bar sans toit. Donc, en VO, évidemment, c'est un topless bar, un bar à danseuses topless. Il y a un truc qu'on raconte souvent, mais j'ai pas retrouvé l'origine, c'est dans un roman, un personnage qui arrive au bar et qui commande un écossais pour un scotch, un whisky. Bon là, les gars, faut faire un effort. Et dans mon édition de À deux pas du ciel, on peut lire ce livre vaut surtout pour son aspect documentaire sur les robots, sur les hobos, pardon, etc., avec leur propre argot. Eh bien non, il n'y a pas d'expression en anglais avec des notes de bas de page, donc c'est-à-dire qu'ils ont traduit tel que la quatrième de couve. Donc, il y a eu tout un travail sur les nouvelles traductions. C'est toujours chez Quarto de Gallimard, chez Gallmeister, très important, chez Rivage Noir. Donc dans ces cas-là, c'est toujours indiqué. Donc Folio Policier 10-18, continue à vendre les anciennes traductions, c'est quand même assez difficile à admettre. Et puis je vais dire une petite chose, parce que c'est pas la peine de jouer les snobs, on peut quand même lire les premières traductions. Moi par exemple, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire 1275 âmes de Jim Thompson. C'est le livre qui avait été adapté par Tavernier pour son film Coup de torchon. Donc on a eu droit à une nouvelle traduction intégrale qui s'appelle désormais Pottsville, 1280 habitants. Pourquoi ? Parce que le titre original c'est Pop, P-O-P, point, 1280. Alors pourquoi 1280 est-il devenu 1275 ? Il paraît que ça sonnait mieux. Eh bien non, donc en fait on ne saura jamais. Donc on a, c'est pas fini, on a en perspective de nouveaux soucis de traduction, là c'est moins drôle. Donc cette année, on a eu la retraduction de certains passages d'Agatha Christie, qui est déjà en 2020, on avait retitré 10 petits nègres en Ils étaient 10. Bon, mais le pire est à venir. Donc je reprends un article de Pierre Bondil, qui était un traducteur. Il explique que le roman noir donne une grande place au dialogue. De fait, il reprend des argots qui sont essentiellement des langues de groupes sociaux. Et on assiste à une tentative aux États-Unis de déracialiser le langage, de ne pas parler de la couleur de peau des personnages, et d'éviter de faire reconnaître l'appartenance ethnique par les patronymes ou les tics de langage. Ainsi que pour le rendre asexué, exemple, le facteur mailman qui disparaît pour devenir un mail person, ou le vais qui tend à remplacer comme pronom plus neutre la troisième personne du singulier. Donc ça s'inscrit dans une espèce de renouveau de la langue, mais surtout une volonté de conformisme, plus précisément de choses socialement acceptables, qui, soit dit en passant, est la véritable traduction de l'anglais politically correct. Donc c'est un peu dommage, puisque le roman noir, c'est quand même un genre où les personnages s'expriment comme dans la vie. Alors Pierre Bondil donnait d'ailleurs son avis sur le film Inglourious Basterds de Tarantino, qui est, je cite, à cet égard, infiniment rétrograde en proposant des dialogues surécrits. Alors malgré tout, on doit énormément à la série Toi, et le truc c'est que les Américains eux-mêmes avaient fini par redécouvrir certains auteurs dans les années 70-80 par le biais d'un ou deux éditeurs américains qui les ont redécouverts dans la série Noire grâce aux bouquinistes sur les quais de Seine. Donc on aborde le chapitre polar et politique dans les années 30, 40, 50. Donc, il y a eu pas mal d'auteurs avec une certaine sensibilité. Quelques exemples. Donc, Jim Thompson est adhérent au Parti communiste en 35, qui va quitter en 38. Ahmet, déjà, en juillet 51, il est convoqué une première fois devant la cour d'appel du second district de New York, et on lui reproche d'avoir participer aux activités du Civil Rights Congress, le CRC, en 1946, donc une organisation d'aspiration communiste très active dans la défense des droits des citoyens. Le CRC avait constitué par exemple un fonds de cautionnement destiné à faire libérer les militants arrêtés pour raisons politiques. Et puis la fin des années 50, Ahmet était devenu un activiste politique d'une certaine importance. Il militait à côté de Dos Passos ou d'autres, participait à des meetings anti-nazis. À l'époque, il avait aussi manifesté des prises de position en faveur de l'Union soviétique. Et du coup, en 53, il va comparaître deux fois devant la commission sénatoriale des opérations gouvernementales présidée par McCarthy. Il est condamné à 6 mois de prison. Il fera pas appel malgré ses soucis de santé. Et le truc, c'est que ces livres seront carrément retirés des bibliothèques. On va en citer d'autres, donc Howard Fast, donc il était communiste, et puis on va citer un exemple avec un auteur des générations suivantes, Ed Lassie. Alors, de son vrai nom, Leonard Zinberg, ou Len Zinberg, premier roman en 1940, donc c'est un cas passionnant. Len Zinberg était juif, non pratiquant, communiste, militant des droits civiques, marié à une femme noire, ils avaient adopté une petite fille noire et ils vivaient à Harlem. Donc, avec le macartisme, il va devoir changer de nom et Len Zinberg devient Ed Lassie. Et Roger Martin aura l'idée d'en faire un livre. C'est une grosse enquête qui lui a pris plus de 3 ans. Le bouquin s'appelle « Ed Lassie, un inconnu nommé Len Zinberg ». Ça sort en février 2022. Et puis, Roger Martin a aussi traduit Womb to Swing de 57, titre français Traque Noire en un seul mot. Donc c'est le premier personnage de détective noir, un an avant Chester Himes, avec son roman La Reine des Pommes, et j'y reviendrai. Donc là, c'est super, on est loin des stéréotypes des polars américains moyens. C'est pas un polar dans lequel le personnage passe son temps à picoler, à se bagarrer, à sauter sur tout ce qui bouge, où toutes les femmes ont de longues jambes superbes selon la formule consacrée. D'ailleurs, à la fin du roman, il renonce à faire du fric et à être détective. Et ce roman parle d'ailleurs de télé-réalité. Alors, je reviens sur La Reine des Pommes de Chester Himes, qui a d'ailleurs été publié en français parce que c'est Marcel Duhamel qui avait demandé à Chester Himes, qui habitait en France à l'époque, d'écrire du polar. Il le fera avec d'autres auteurs. Alors, pour le coup, c'est un chef-d'œuvre. Donc, les deux inspecteurs noirs qui figurent dans le bouquin ne sont pas les héros. Ils apparaissent page 73 et ce sont des salauds. Le héros, c'est Jackson, le loser. Donc, petit focus, donc on est plongé dans le Harlem des années 50. Tous les personnages sont noirs, quasiment. Donc, on est à une époque où la société américaine ne laisse pas de grandes perspectives aux noirs. Donc, c'est un milieu d'arnaque en tout genre. Et on y trouve plein d'expressions, de proverbes. J'ai compté 8 citations de vieux blues, une citation d'un spiritual. Il cite Bottom Blues par un Hot Lips Page. Il y a des cireurs de chaussures qui font du tam-tam avec leur chiffon. Alors bon, il y a souvent le mot garde à vous, alors si c'est hands up qui a été traduit comme ça, c'est pas terrible. Je crois que daddy a été traduit par papa, et pas par chéri. Bon, comme d'habitude, on confond pistolet et revolver, c'est pas grave. Alors on a aussi une sœur de la charité, complètement junkie, qui d'ailleurs n'est pas une sœur, puisque c'est le frère de Jackson. Vous avez suivi. Donc il y a des scènes d'anthologie. Donc, à un moment, Jackson, le héros, est poursuivi par la police et il s'enfuit dans la charrette d'un chiffonnier dégueulasse. Et puis, il y a aussi une scène de bagarre que je vais vous lire. Alors, l'un des agringes piqua l'autre au bras. Une plaie aux lèvres béantes s'ouvrit dans le cuir épais du blouson, mais elle ne révéla que de vieilles hardes, 2 tricots, 3 chemises et un sous-vêtement d'hiver. Le deuxième agringe riposta, fendant le devant du blouson en toile de l'adversaire. Mais il ne s'échappa de la blessure que de l'encre sèche d'imprimerie, celle des journaux dont le personnage s'était capitonné de torse pour lutter contre le froid. Les deux jobards continuaient à se pourfendre. Ils évoquaient des fantoches, bataillant dans une frénésie sanguinaire, mais répandant autour d'eux, au lieu de sang, des lambeaux de vêtements élimés et de journaux vieux de 8 jours. Les clients riaient. « Comment veux-tu qu'ils se fassent mal, ces abrutis-là » remarqua quelqu'un dans la foule. Autant s'attaquer à un épouvantail. Un autre. Tu sais ce qu'ils font? Ils essaient de baiser l'armée du salut. Un autre. Ils veulent pas vraiment se piquer, mec. Ils se connaissent, ces deux-là. Chacun cherche à faire crever l'autre de froid. Alors, on n'est pas dans le burlesque pendant tout le bouquin. Hein, mais il y a des passages comme ça assez excellents. Bon, je vous rassure, c'est le dernier extrait que je lis. Alors, d'autres auteurs. On a par exemple, je les ai classés en fait par thème. Je n'ai pris juste une petite poignée. Mais par exemple, vous voulez un bouquin sur les Indiens, c'est Tony Hillerman, par exemple là où dans Slaymore en 73, qui a eu un prix, le prix. Donc l'édition française soignée avec une carte, avec un lexique en fin de bouquin, qui lui-même constitue aussi une porte d'entrée sur le monde des Amérindiens. Alors, il y a des bouquins avec le contexte de la guerre du Vietnam et l'échec de la contre-culture. Robert Stone, La ligne de fuite, première traduction, Les guerriers de l'enfer, donc à éviter. La prison, Edward Bunker, il y en a un paquet dans les années 90, adapté au cinéma aussi. Et puis, et ça va être le dernier en fait. Pour ce qui est de la mémoire, il y a James Lee Burke, B-U-R-K-2-E, donc vraiment un des plus grands auteurs, encore un qui a pratiqué pas mal de métiers, Donc ouvrier du pétrole, routier, journaliste, assistant social, garde forestier, topographe et enseignant d'anglais. Donc son livre « Dans la brume électrique avec les morts confédérés », ça vous dit quelque chose puisque ça a été adapté par Tavernier. Et donc on croise dans ses bouquins des anciens du Vietnam, des gens qui ont traversé des wetbacks, des Mexicains. Il y a tout un tas de morceaux d'histoire des États-Unis qui se croisent. Alors, là, je vais aborder le rôle de la CIA dans la création littéraire américaine. Alors, je me rends compte que j'aurais guère le temps de parler des femmes. Bien dommage. Donc, pour moi, ça commence par une interview de Tess Gunty, G-U-N-T-Y. Elle vient d'avoir le National Book Award à 30 ans. On n'avait quasiment jamais vu ça. Donc, ça commence par un article du Figaro du 5 mai 2023. Donc elle nous confie qu'en ce qui la concernait, je cite, il s'agissait aussi de quitter une focale individualiste que le capitalisme américain a beaucoup encouragée. Durant la guerre froide, la CIA a infiltré des programmes d'écriture pour éliminer les histoires collectives par peur du communisme. Cela a eu des conséquences sur la littérature américaine, et si on y ajoute la montée des réseaux sociaux et autres plateformes poussant les gens à rester enfermés dans une perspective unique, je dirais que jouer d'une pluralité d'angles dans mon livre, écoutez-moi jusqu'à la fin, était aussi une façon de lutter contre ça. Donc de quoi parle-t-elle ? En fait, dans les années 30, il y a l'université de l'Iowa qui a créé les premiers ateliers d'écriture, Creative Working, avec des cursus pour être professeur et animer ces ateliers. C'est le fameux Iowa Writers Workshop. Et ses dirigeants avaient été recrutés par la CIA, dont Paul Engel, qui a été directeur de 1941 à 1965. Et donc, en conséquence, plus de la moitié des ateliers d'écriture apparus dans les années 70 avaient été fondés par des diplômés de cette université. Donc, j'ai trouvé des commentaires récents. Par exemple, sur le site américain movable.vice.com, c'est l'écrivain Brian Mercant qui a décrit récemment, je cite, le système MFA, le Master of Fine Arts, qui délivre des diplômes d'écriture, par exemple. Ce système, dirigé par le tristement célèbre Iowa Writers Workshop, comme une ferme de contenu d'abord conçue pour optimiser la diffusion de la propagande anticommuniste à travers la littérature savante. Fin de citation. Également sur le site américain openculture.com, on peut lire, je cite, « On en voit l'effet sur la création littéraire américaine qui continue d'occuper un registre assez restreint et montre une certaine hostilité à l'égard des travaux jugés. » Trop abstrait, argumentatif, expérimentaux ou postmoderne. L'un des résultats peut être que les écrivains qui souhaitent être financés et publiés doivent se conformer à des règles conçues pour coopter et contenir l'écriture littéraire. Fin de citation. Donc, dans le monde de l'édition, la CIA avait la même politique parce qu'en 1953, quand Peter Matheson fonde un magazine littéraire qui a eu une certaine importance, je crois, le Paris Review, on sait qu'à l'époque, c'était une recrue de la CIA. Alors, j'avais prévu pas mal de choses pour dire qu'en fait, même si on prend tous les auteurs qui ont parlé de milieux de laissés pour compte, de démunis qui vivent dans des caravanes comme Carver, Fante, Bukowski, Shepard, Brautigan ou Russell Banks, en fait, moi je me rends compte a posteriori que aucun de ces bouquins ne livre une sorte de peinture sociale, et encore moins de critique sociale d'autres milieux sociaux. Et c'est là qu'on se dit que le roman noir représente un espace où trouver des critiques de nombreux pans de la société américaine. Alors, j'avais prévu une pause musicale, on se la fera après. Donc, on aborde les femmes et le genre. Donc oui, le polar a contribué à diffuser de nombreux stéréotypes sur les femmes, et pas que. Dans une période plus récente, et surtout dans le thriller, il a largement présenté et popularisé une violence exercée sur les femmes. C'est un petit peu gênant. Donc, il y a les faits, et après j'irai davantage au fond, à partir du bouquin « À armes égales » de Caroline Granier. Donc, dans les faits, le titre du premier roman policier aux États-Unis est attribué à Anna Katharine Green, avec le crime de la 5e avenue en 1878. et qui s'est vendue à 1 million d'exemplaires. Donc c'est pas anecdotique. Et puis elle a fait une autre innovation, elle a créé un personnage de femme détective, il y aura une trilogie, et ça c'est en 1897, ça existait. Donc si on parle de Black Mask, il faut dire quand même que c'était dirigé à ses débuts par une femme pendant 2 ans. Alors il y a pas mal, il y avait des milliers et des milliers d'auteurs pour les Pulps, et il y a eu beaucoup de femmes. Pour autant, on n'a pas forcément retenu leur nom, moi j'en ai pas trouvé qui sont encore réédités, et on a quand même l'impression de se retrouver face à une littérature faite par des hommes pour des hommes. Donc, si on a oublié les premières, après ça change. Donc, je voulais parler des autrices qui ont fait des grosses ventes. Donc, il y a le cas particulier en Angleterre, parce que c'est les femmes qui règnent sur le genre, comme Agatha Christie, Pili James, Ruth Rendell, etc., ou Anne Perry. Faut savoir que Agatha Christie, il y a que Shakespeare qui soit plus vendu en Angleterre, et dans le monde entier, Agatha Christie passe juste après la Bible. Bon. Après, il y a les Américaines, donc Patricia Highsmith, qui sort sa première nouvelle en 1946, son premier bouquin, 150, mais ça a un succès immédiat. Il y a Mary Higgins Clark, c'est quand même 100 millions de bouquins aux États-Unis et 20 millions en France, donc on a quand même un gros public pour le roman noir. Et puis, il y a Sarah Paretsky, qui est très citée dans les études féministes. On aura Patricia Cornwell, qui a vendu elle-même aussi 100 millions de bouquins dans le monde. Et puis, bon, alors en France, c'est un peu plus tardif. La première femme à être éditée dans la série noire, c'est Jeannine Boissard en 71. Chez Rivage Noir, c'est en 96. La collection était quand même sortie en 86. Bon, vu comme ça, les femmes ont toujours eu une place dans le polar, mais si on y regarde de plus près, et du côté des personnages, eh bien, on est plutôt du côté des victimes. Donc, je passe au bouquin de Caroline Granier. Il y a plusieurs axes dans ce bouquin. Se pose la question de l'existence d'une écriture féminine. Alors, elle cite Martin Reid qui dit « Il serait absurde de rapprocher des œuvres simplement parce qu'elles sont écrites par des femmes au nom d'un féminin essentialisé. Il faut au contraire replacer ces œuvres dans leur contexte historique et les faire entrer en dialogue avec des œuvres écrites par des hommes au même moment. » Et Granier écrit « Si les femmes écrivent différemment, c'est pas parce qu'elles seraient essentiellement différentes, mais parce qu'elles n'occupent pas la même position dans la société, et que ça a une conséquence et sur l'imaginaire et sur la structure narrative. » Alors, les violences contre les femmes, donc, il y avait une jolie citation de Manchette, je crois que je n'aurai pas le temps. On est, dans la littérature classique, habitué à des héroïnes passives, victimes de l'ordre social, victime des hommes, qui se révoltent pas, ou rarement. Et puis, il y a quand même une impressionnante prolifération de romans avec des tueurs en série qui violent et sadisent et tuent des femmes. Alors, c'est là que Caroline Gradier dit que les hommes violents, les femmes victimes, le polar ne fait pas que représenter une réalité sociale, il l'amplifie. Alors, encore une fois, moi je trouve ça beaucoup plus dans les thrillers que dans les romans noirs. Hein, ce genre de choses, c'est très différent, deux genres différents. Un autre axe, c'est la violence des femmes, qui gêne, qui a pu gêner et le lecteur et les critiques, parce qu'elle dit qu'en gros, la violence illustre le principe de la division sexuelle, et devenir violente, c'est se retrouver du côté du pouvoir. Et une façon de renverser une certaine organisation sociale. Donc, les choses ont changé avec le temps. Premièrement, les femmes auteurs et leurs romans sont devenus aussi violents que ceux des hommes. Et puis, peu à peu, elles ont choisi des personnages féminins. Alors, je vais quand même citer un petit passage de Fred Vargas, parce que c'est assez terrible, quand les stéréotypes viennent polluer et perturber la perception des personnages féminins chez le lecteur. Donc Fred Vargas, contrairement aux hommes, les femmes sont cernées par les clichés littéraires. La vampe, la pute, la mère, la maîtresse, la niaise. Prenons un exemple. Attendez-moi, j'ai un caillou dans la chaussure, dit Marc. Rien à ajouter, on l'attend, on comprend. À la même phrase dite par Colette, le lecteur pense, voilà, si bien une fille, elle va retarder le monde, quelle emmerdeuse. Donc, si les personnages féminins sont devenus plus nombreux, c'est aussi, nous explique Caroline Garnier, parce que jusqu'au début des années 70, les femmes n'avaient pas accès à tous les grades policiers. Donc à l'époque, mettre une femme dans un rôle de flic, cela aurait donc été de la pure science-fiction. Je rajoute que il y a des nouvelles romancières qui sont apparues, qui sont dans la vie expertes en balistique ou médecins légistes. Alors, toujours pareil, certains ont cru devoir remarquer que les romans des femmes sont plus violents. Et Caroline Granier nous répond non, c'est plutôt que la violence paraît plus forte quand c'est une femme qui en est l'auteur. Donc, elle prend un exemple assez marrant, c'est à propos du bouquin Dirty Weekend de Hélène Zahavi. C'est une série de killeuses qui se venge contre des hommes, elle en tue 12 dans un week-end, je crois. Elle dit, c'est bien la violence des femmes envers les hommes qui est insoutenable pour certains, car elle met en danger l'ordre dominant. Alors, c'est pas dans Caroline Granier, mais ce bouquin, en fait, serait le dernier en date des ouvrages de littérature à avoir fait l'objet d'une demande d'interdiction au Parlement de Londres pour cause d'immoralisme. Bon, c'est sur la quatrième de couve, donc c'est peut-être à mettre entre guillemets. Et donc, elle donne des exemples de la réception critique de ce livre, qui a été très dure en Angleterre, mais aussi critiquée en France, y compris dans un journal dit de gauche qui est en train de fêter ses 50 ans. Et dans un article de 2000, il y a un critique qui écrit à propos de Dirty Weekend. Il parle d'un, je cite, d'un faux polar noir exudant la haine, et plus loin de la noirceur hargneuse de Dirty Weekend. Et quelques années plus tôt, le même critique avait fait un article, c'était en 96, à propos du bouquin True Romance, dans lequel il y a un personnage féminin, Bella, qui est harcelée, violée, assassinée. Il avait présenté Bella comme en but au harcèlement de mauvais garçons de cette ville, etc., très mal famée. Bon, je pense que c'est quand même un euphémisme. Donc, petite remarque, moi j'avais trouvé la trace d'un livre de Darcy Glinto qui raconte la vengeance d'une femme qui avait été violée, et c'était en 41. Mais comme disait Roger Martin, on peut toujours trouver des exemples de telle ou telle innovation, mais si le livre a été peu diffusé, il n'a pas pu influencer le genre et ne représente pas vraiment un progrès. Alors, Granier remarque aussi qu'on n'a jamais proposé aux petites filles des héroïnes, des modèles de femmes fortes et encore moins violentes. Et puis, moi je vais introduire un autre axe, qui n'est pas dans le bouquin, c'est le phénomène du backlash. L'effet retour réactionnaire contre les luttes féministes. Donc moi j'étais tombé dans la revue papier La Déferlante, la revue des révolutions féministes, sur un article signé de Nora Boazzouni, donc c'est cette année, qui constate que la télévision américaine produit de plus en plus de films peuplés de femmes psychopathes, et forcément manipulatrices et criminelles. Et selon Nora Boazzouni, ces films sont destinés à perpétuer l'idée que les femmes sont par nature perverses, dangereuses, et elle voit ça comme un retour de bâton conservateur en réponse aux avancées féministes. Alors moi, j'ai un autre exemple, c'est une série télé, une espèce de documentaire sur les crimes qui s'appelle Snapped, les femmes tueuses, j'en ai vu. Donc ça fait longtemps que ça passe, même en France, et renseignement pris, cette série a démarré en 2004. Elle est toujours en développement, et comme il y a plusieurs saisons par année ou à cheval sur des années, on en était en 2022 à la série numéro 31, il y a 561 épisodes, clairement du bourrage de crâne. Alors, quand même une petite réserve sur ce bouquin, parce que à mesure que Caroline Granier développe ses thèses, on a souvent l'impression qu'elle transpose les histoires et les relations des héroïnes de romans à la réalité. Alors sauf si on considère que la fiction nous amène dans un réel exacerbé dont on peut tirer des conclusions, l'exercice est quand même assez périlleux. Et tout de suite, je dois dire aussi que ce bouquin m'a permis d'évoluer. Alors le polar féminin existe, il y a les militantes de Claire Raphael, il y a la deuxième femme de Louise May, il y a Sue Grafton et Sarah Paretsky. Et puis je voulais vous parler d'un bouquin de George Baxt. Et là, j'aborde la littérature policier gay qui existe. Donc Baxt, B-A-X-T, donc en 66, il publie Drôle de Sauna, qui sort en France l'année suivante. Donc ce serait le premier héros homosexuel, mais il est noir aussi, détective, Pharaoh Love. Donc il enquête dans le milieu gay de New York. Donc, petit focus, il n'y a pas que des homos. Le détective n'est d'ailleurs peut-être pas le héros, même si ça va être une série. C'est un roman plutôt choral, avec des personnages très fouillés, dans un milieu plutôt bourgeois. Donc on est aussi sur le thème des amitiés toxiques, c'est pas le déprofondiste d'Oscar Wilde, mais on se retrouve un petit peu de ce côté-là, et c'est vraiment un très bon bouquin. Donc 66, et en 70, on a Joseph Hansen qui démarre aussi une première série policière. Alors, j'en parle parce que c'est publié en français, tout d'abord en 70, dans une version expurgée, et sous le titre « Un blond évaporé ». Donc je ne suis pas certain que le livre ait été traité correctement. Heureusement, il y a une nouvelle traduction intégrale, avec un nouveau titre, « Le poids du monde », en 2000. Voilà, donc, cette émission touche un peu à sa fin. Je vais vous faire une petite publicité pour le Festival du roman noir et social. Donc, on a 42 auteurs, hommes et femmes. On a plusieurs débats. Il y en a un à 14h le samedi, c'est « Quand les flics ont remplacé les 68 heures de manchettes anorec, qu'est-ce que cela a changé dans cette littérature née de la critique sociale ?» On a un truc sur les éditeurs indépendants, on a une conférence sur le passage de l'écrit à l'image, on a le projet Stop qui sera exposé, donc ça c'est le monde de la littérature s'engage par ses écrits et ses éditions contre le capitalisme sauvage mondialisé, coupable de la destruction de l'humain et de la destruction de la nature. On a le dimanche à 16h le thème « Le roman noir comme esprit de contrebande ». Et puis, il y aura une pièce, il y aura des lectures musicales, il y a de la musique, il y a du cinéma aussi, puisque Dominique Moll viendra présenter son film. Donc, tout un tas de bonnes choses. Effectivement, si mon émission avait duré un peu plus longtemps, j'aurais pu vous dire pas mal de choses. Et puis, on va se terminer là. Alors, prochaines émissions, cette émission m'a donné envie également de faire une émission sur le thème des musiques jazz dans les films policiers. Et puis, peut-être aussi une autre émission qui s'appellerait « Le jazz en France, une musique presque populaire de 1922 à 1988 et je vais mettre un petit peu de musique pour faire la jonction avec les camarades de l'émission d'après. Donc je vous dis à bientôt. On écoute Kelly Lee Evans.
Deep within, is a man who knows where life begins. A man who knows where life begins. Finds the truth where he wins. Smiles beyond his attitude. Yes, a man who's steeped in gratitude. He's gotta know his mind. He's gotta know what works. His knees. The man who loves his
Le temps des cerises et guerre au signal et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de payer en rêvant, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, qu'on paye en rêvant. Vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en plein décembre, et que le musicaillon bouffe le bois de ses crayons, déserté par les notes, les yeux remplis de flotte. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troulalaire, c'est pas moi qui vous vendrai du vent.